Bonjour à tous, aujourd'hui un podcast pour vous présenter l'étape 4, un podcast tout simple en deux parties. Première partie, je vous lis l'étape 4. Deuxième partie, je vous fais une lecture guidée de l'étape 4. Je vous rappelle que les étapes 3 et 4 sont des étapes où il est important d'utiliser le livre, le programme en cette étape, puisque là, en fait, on va passer dans le dur, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est-à-dire qu'on va travailler sur les blessures et le processus de digestion des émotions et de transformation des choses. Et donc en fait là on va utiliser les exercices pratiques du livre, le programme en cette étape. Et donc là il est important d'utiliser les outils avec votre psychopraticien, c'est-à-dire avec le professionnel qui vous accompagne pour le programme en cette étape. Voilà pour cette parenthèse. Je reviens donc au programme de ce podcast. Première chose, je vous lis l'étape numéro 4. Nous nous sommes libérés de nos schémas toxiques, de nos peurs parasites et de notre culpabilité en affrontant nos blessures avec courage et indignation. Nous avons compris la honte et le dégoût pour mieux prendre soin de nous-mêmes avec intégrité, dignité et sobriété. Nous avons appris les 5 étapes de la digestion émotionnelle de la douleur pour faire le deuil de notre histoire. Nous avons accepté le feu de notre colère pour sa transformation et l'eau des larmes de notre tristesse pour son intégration. Voilà pour la lecture de cette étape. Je vous fais maintenant un commentaire de cette étape, phrase par phrase. Première phrase, nous nous sommes libérés de nos schémas toxiques, de nos peurs parasites et de notre culpabilité en affrontant nos blessures avec courage et indignation. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un schéma toxique? Un schéma toxique, c'est un schéma dysfonctionnel qui est lié au stress disorder, c'est-à-dire que c'est un schéma où il va y avoir une certaine destructivité dans la douleur, ou une certaine toxicité dans le plaisir, ou une certaine passivité dans le déni. Donc c'est un schéma en fait qui est dysfonctionnel à cause de bugs liés au stress disorder, c'est-à-dire liés à l'impact du stress sur vous, aux blessures du passé. Et donc en fait, à cause de la dissociation psychocorporelle ou émotionnelle ou sensorielle du stress disorder, à cause des biais cognitifs et fausses croyances du stress disorder, à cause des bugs au niveau du stress et de la compulsion du stress disorder, et à cause du déni de la douleur ou de l'amnésie traumatique du stress disorder, en fait, on a des bugs émotionnels et mémoriels qui vont alimenter des scénarios de répétition, des schémas en boucle, où en fait, on va avoir des comportements qui vont être irresponsables, toxiques, abusifs, donc soit en termes de douleur, soit en termes de plaisir malsain, soit en termes de déni des réalités et déni des responsabilités et des choses. Voilà pour vous éclairer sur ce que c'est qu'un schéma toxique. Donc le schéma toxique, il est lié à des peurs parasites et à la culpabilité, au sens où il est lié à du freezing, c'est-à-dire à du figement, qui va faire que notre structure va se refermer et qu'on va en fait être comme bloqué, gelé sur le plan émotionnel et affectif, dans un certain comportement maladivement, dans un certain comportement maladif, passif et abusif. Donc en fait, bon, ce comportement dysfonctionnel, il est lié à l'inhibition de l'action, à la répression des émotions. Ça, vous pouvez regarder le travail du docteur Henri Laborie là-dessus. Et donc en fait, on va se fermer, on va garder en nous le stress encaissé, et donc on va avoir en fait en nous une peur de l'ouvrir entre guillemets, et on va ruminer l'insatisfaction, soit avec du ressentiment, soit avec de la culpabilité. Et donc on va se refermer et on va dysfonctionner. Donc là en fait il s'agit, je suis toujours sur la première phrase, il s'agit d'inverser ce mouvement en affrontant nos blessures avec courage et indignation et en se libérant de la peur. C'est-à-dire qu'en fait il s'agit de s'ouvrir, d'accepter une colère saine pour dire non à la souffrance, non au mal-être, non aux fausses croyances qu'on est quelqu'un de mauvais, etc. Et en fait, on va accepter l'idée qu'on est en souffrance et on va accepter l'idée qu'il s'agit maintenant de digérer la douleur et qu'il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des stressés, mais il est important d'affronter le problème du stress. Donc en fait, avec courage, on va se réveiller et on va dire non, c'est pas normal de souffrir et on va affronter le problème de la peur, de la douleur, sans avoir peur ou sans se culpabiliser, c'est-à-dire soit en se disant ah, c'est anormal de réagir ainsi, je devrais faire comme tout le monde et me taire, etc. Donc on sort de la loi du silence, on sort de la répression des émotions, et on ose en fait affirmer le fait qu'on a le droit d'aller bien et qu'on a marre d'aller mal et de souffrir et de dysfonctionner. Voilà pour la première phrase. Ensuite, nous avons compris la honte et le dégoût pour mieux prendre soin de nous-mêmes avec intégrité, dignité et sobriété. Alors, la honte, elle est normale et naturelle lorsqu'il y a un comportement anormal ou inhumain. Et le dégoût, il est normal et naturel lorsqu'il y a toxicité et abus. Chez les personnes qui sont hautement dysfonctionnelles, en fait, il n'y a plus de honte et il n'y a plus de dégoût. C'est-à-dire qu'en fait, elles se rendent pas compte des choses, elles ont perdu la conscience des choses sur le plan moral, et en fait elles répètent des schémas toxiques sans même plus être écœurées ou sans même plus avoir honte. Elles sont dans le mépris des choses, comme on dit, ou dans le déni des choses, elles en ont plus rien à faire, et donc en fait elles ont pas conscience de la honte et du dégoût. Là, en fait, on va utiliser la honte saine pour remettre les choses à leur place, et on va utiliser le dégoût sain pour comprendre qu'en fait on en a assez, qu'on sature et qu'on veut passer à autre chose avec une certaine intégrité, c'est-à-dire en fait en retrouvant son pouvoir de bien réfléchir en utilisant ces sept émotions, en retrouvant une certaine dignité, c'est-à-dire un certain courage d'aller vers les choses positives et d'éviter les choses négatives, et puis une certaine sobriété, c'est-à-dire une certaine conscience du dosage des choses entre manque et abus. Donc voilà pour la deuxième phrase. Il s'agit en fait sur le plan moral, de s'indigner et d'affirmer positivement qu'on est écœuré par le manque d'éducation émotionnelle et sociale, et qu'on est indigné par la situation morale dans nos sociétés, où on est dans la société de consommation, l'obésité, l'avidité, la vanité, etc. Et alors qu'en réalité, on est pauvre sur le plan des sentiments, et qu'il est temps que ça change, vu que la planète est en train de souffrir de notre tendance à la consommation sans satisfaction. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà le sens de la deuxième phrase. La troisième phrase, nous avons appris les cinq étapes de la digestion émotionnelle de la douleur pour faire le deuil de notre histoire. Alors là, ça veut dire tout simplement qu'on a découvert le travail du docteur Elisabeth Kübler-Ross avec les Five Stages of Grief, c'est-à-dire qu'on a compris le processus de deuil, pardon, et qu'on a compris que pour faire le deuil de quelque chose, il faut d'abord sortir du déni et avoir conscience de la douleur et de la perte. Il faut avoir conscience qu'il va y avoir une réaction de colère pour dire non à la douleur, non à la souffrance, non à la perte, non à l'injustice ou non à la blessure. Donc d'abord sortir du déni, ensuite dire non avec une colère saine à la souffrance pour se dire non, j'en ai marre de souffrir, oui, je veux aller bien, c'est ça la colère saine. Et donc c'est la deuxième étape du processus de deuil. Troisième étape du processus de deuil après la sortie du déni et l'acceptation de la colère saine, ça va être la traversée de la peur, c'est-à-dire la peur du changement, c'est-à-dire on sort de sa zone de confort, on s'est réveillé, qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Soit on vient une perte, soit on vient un changement. Donc qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, là, il va y avoir une période de peur où on peut douter de ses capacités à y arriver, on peut avoir des angoisses, des peurs, etc. Donc là, il faudra bien vérifier s'il n'y a pas des peurs parasites liées à du stress de l'attachement, du stress respiratoire, à des dépendances affectives ou à des peurs paniques de mourir, des choses comme ça qui font partie des sept blessures du cœur. Donc là, on va travailler sur cette peur. Ensuite, quatrième étape du deuil, on va travailler sur la tristesse. C'est-à-dire qu'en fait, on accepte que notre passé est passé, mais cette fois-ci au sens où on l'a bien reconnu, son histoire, on a bien intégré son histoire. Donc on accepte que son histoire est finie au sens où ce qu'on a vécu est fini. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de ruminer la douleur. Notre cerveau a compris que c'est passé. On s'est réveillé par rapport à ça alors qu'avant on l'avait mis de côté. Donc on a accepté la blessure. On a arrêté de nier la blessure. On a dit que c'était pas normal et puis on a pris conscience que maintenant c'est fini et qu'on peut passer à autre chose. Donc il y a eu ce processus de deuil et donc là on est dans une période de qu'on appelle de dépression ou de tristesse où en fait on laisse partir, on accepte de laisser partir les choses et de tourner la page, mais au sens où il y a vraiment une acceptation, une intégration de son histoire, sans nier sur le plan émotionnel. Alors concrètement, ça veut dire qu'on est triste parce qu'on a été frappé, par exemple, mais comme on a intégré ça, on ne va plus frapper les autres. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Ou bien comme on a été abusé, on va accepter cette réalité-là. Et on va prendre conscience, par exemple, que bah, c'est pas normal qu'il y ait 10% des gens en France qui soient victimes d'inceste. Et donc, en fait, on va avoir une profonde tristesse pour ces gens-là. Et on va passer donc à l'étape suivante du renouveau, c'est-à-dire de l'engagement vers un changement positif pour transformer les choses. Donc, dans ce processus-là, en 5 étapes, il y a d'abord la reconnaissance de la blessure. Ensuite, il y a l'acceptation de dire non à la blessure parce que on n'est pas fait pour souffrir. Ensuite, il y a la peur parce qu'on sort de sa zone de confort, on est en train de se réveiller, on est en train de changer. Ensuite, il y a l'acceptation de la tristesse parce que tout ça, c'est de la douleur qui est passée, qui est finie. Et puis, il va y avoir la transformation des choses pour se remettre en mouvement de façon plus positive dans la vie. Voilà l'essentiel pour nous avons appris les 5 étapes de la digestion émotionnelle de la douleur pour faire le deuil de notre histoire. Et donc nous avons accepté le feu de notre colère pour sa transformation et l'eau des larmes de notre tristesse pour son intégration. Alors là, c'est tout le travail qu'il y a pour comprendre que dans la satisfaction de nos besoins et la gestion de nos relations, en fait, il y a une dynamique qui est commune entre colère et tristesse, puisque en fait tout ça concerne la satisfaction de nos besoins dans les liens qui nous unissent, dans nos environnements de vie. Et donc la colère en fait et la tristesse sont intimement liés par le fait que nos besoins qui sont plutôt de l'ordre de la colère et la tristesse qui est plutôt de l'ordre de nos relations. Donc la colère est plutôt de l'ordre de nos besoins et la tristesse est plutôt de l'ordre de nos relations. Mais en même temps, en fait, la colère et la tristesse sont liées puisque la satisfaction de nos besoins passe par les liens qui nous unissent dans nos environnements de vie. Et donc en fait, il y a une interdépendance ou une interaction, interdépendance sociale, familiale ou interaction environnementale entre nous. Et donc en fait, on est intimement relié en termes de satisfaction des besoins et de gestion des relations pour arriver à quelque chose qui soit satisfaisant. Donc en fait, on accepte le feu de notre colère pour prendre soin de ses besoins, pour affirmer ses besoins, pour remettre les choses à leur place en termes d'équité, de réciprocité, de justesse, pour rééquilibrer tout ce qui est de l'ordre du manque et de l'abus. Et puis en même temps, on est triste dans le cadre de nos relations, puisqu'en fait, on accepte que nous sommes en lien les uns les autres et que en fait, il peut y avoir comme des séparations, comme des incompréhensions, comme des pertes, parce que les gens sont en souffrance et que c'est triste, et que finalement, tout ça, ça fait. Ça a un point commun qui est de l'ordre de la douleur du manque ou du manque dans la douleur. Et donc en fait, il s'agit d'équilibrer colère saine et tristesse normale pour pas partir soit dans une colère excessive, disproportionnée qui serait de l'ordre de la rage, soit de tomber dans le désespoir, c'est-à-dire dans une tristesse qui serait trop forte et qui enlèverait tout espoir de changer les choses. Donc voilà, s'il y a trop de colère, on met de la tristesse, et s'il y a trop de tristesse, on met de la colère saine pour se réveiller et pour s'indigner, ne serait-ce que face à l'analphabétisme émotionnel. Voilà pour cette étape numéro 4 avec sa lecture commentée. J'espère que ça n'a pas été trop long et j'espère que ça vous a éclairé sur le texte de cette étape 4. Pour la pratique, je vous rappelle qu'il faut utiliser le livre, le programme en cette étape, pour faire les exercices pratiques, pour travailler notamment avec des lettres et des exercices sur l'activation du processus de digestion émotionnelle. Je vous rappelle que le programme est à faire avec un psy, puisqu'on travaille sur des choses qui sont riches en émotions, et donc il est important que vous considériez le programme en cette étape comme un booster pour votre thérapie. Et non pas comme une thérapie en soi. Voilà, rappel que vous pouvez retrouver dans l'avertissement qui est sur le site, à la fois sous forme écrite et puis dans nos podcasts. Bonne fin de journée à tous et bon courage à tous.